Ce matin, Max, on aborde un sujet qui n'est pas nécessairement ensoleillé, mais il y a quand même du positif en bout de ligne. J'ai envie de dire ça comme ça. Parce que juin, souvent, c'est synonyme de liberté pour certains jeunes. Fin des classes, emploi d'été, vacances, fin de secondaire pour certains. Il y en a qui arrivent à 18 ans. C'est comme une passe qui, généralement, est positive. Mais pour certains jeunes qui ont grandi sous la protection de la DPJ, l'arrivée à 18 ans, bien, souvent, c'est une rupture qui peut être brutale. Du jour au lendemain, ces jeunes-là doivent apprendre à devenir des adultes sans nécessairement avoir de famille ou de réseau ou de filet de sécurité sur lequel s'appuyer. Et la Fondation des jeunes de la DPJ lance présentement sa campagne « On ne devient pas adulte à 18 ans ».
Parce que c'est quelque chose qu'on a entendu des histoires,
ben oui,
quasiment d'horreur, là, de dire « Ouais, ben là, c'est parce que du jour au lendemain, t'es un adulte, fait que voilà tes choses, puis arrange-toi », alors que quand tu regardes ça, tu te dis, me semble que ça n'a pas de bon sens. Là.
Ben, ça fait pas de sens. Tu ne me feras pas croire qu'à 18 ans, toi, tu étais prêt à voler de tes propres ailes à tous les niveaux.
Ben,
en tout cas,
ça,
pas moi.
Puis surtout après avoir eu quand même un certain encadrement, puis tout ça, puis que là, du jour au lendemain, des fois, dans certaines situations, tu te retrouves, ces jeunes-là, malheureusement, se retrouvent des fois complètement seuls.
Tu vois, ce matin, on va parler avec deux personnes, Ariella, 24 ans, qui est ambassadrice de la campagne. Elle a vécu un parcours marqué, elle, par les placements au centre jeunesse. Et on va parler aussi avec Fabienne Audette, qui est présidente, directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. J'ai envie peut-être qu'on commence par parler avec Ariella, simplement parce qu'elle a vécu ce parcours-là et l'aide de la Fondation. Puis je pense que c'est beau de parler que c'est pas juste négatif quand on entend le terme DPJ. C'est souvent ce qui revient. On voit DPJ des nouvelles, rarement c'est positif. Mmh. T'sais. Fait que de mettre un peu de lumière là-dessus parce qu'il n'y a pas que du mal qui se passe à la DPJ, à la Fondation, dans ce cas-ci, pas de mal du tout. J'avais envie qu'on prenne le temps ce matin. Ariella, bon matin.
Bon matin.
J'ai envie de te demander, évidemment, de nous raconter ton histoire. T'sais, c'était qui Ariella plus jeune, là aussi? Nous mettre en contexte un peu de comment tu t'es ramassée, placée.
Ariella plus jeune, dans le fond, la DPJ est entrée dans ma vie quand j'étais enfant. Chez moi, il y avait un contexte de violence familiale qui découle de certains traumas de mes parents. Ce qui arrive, c'est que moi, j'ai eu des comportements plus jeunes qui étaient autodestructeurs. À la fin, j'avais besoin d'aide. La DPJ est entrée dans ma vie. Ils m'ont aidée sur plusieurs niveaux, autant pour me donner du soutien, pour me donner un autre environnement. Il y avait une accalmie, c'était différent de la maison. Mes comportements, ça allait de mieux en mieux, si je peux dire ça comme ça. Faut savoir que j'ai un TDAH, puis j'ai d'autres troubles associés. Puis à l'école, c'était quand même compliqué. Et le fait d'être placée, ça m'a beaucoup aidée. Ça a beaucoup aidé les communications avec l'école aussi. J'ai reçu plus d'aide qui me convenait. Ensuite, ben c'est pas mal, ça. C'était moi enfance.
Comment t'as... En fait, combien de temps t'as été placée en tout, mettons, à quel âge, puis jusqu'à 18 ans?
Je préfère rester plus vague sur cette question, mais oui, j'ai été placée jusqu'à mes 18 ans, toute mon adolescence. Voilà.
Puis qu'est-ce qui se passe à partir de 18 ans? Parce que souvent, on entend que t'as plus d'aide, que beaucoup de jeunes se retrouvent à la rue, que ça va pas bien, puis c'est souvent là-dessus qu'on appuie. Dans ton cas, c'est pas comme ça que ça s'est passé.
Non, justement, dans mon cas, en fait, c'est que j'ai été placée en famille d'accueil à mes 17 ans. Donc là, à 18 ans, c'est la famille d'accueil qui m'a mis dehors, en fait. Puis ce qui s'est passé, c'est que là, j'étais à la rue, mais j'avais encore mes contacts de la DPJ. J'ai parlé à une des intervenantes que j'avais à la DPJ, puis c'est elle qui m'a mis en lien avec la fondation avec qui j'avais déjà eu affaire dans ma jeunesse. Puis là, eux, ils ont mis des choses en place. J'ai trouvé une place où habiter. Ils m'ont aidé à me remettre sur pied. J'ai recommencé mes études parce que je les avais interrompues pendant un an. Puis c'est ça, je suis où j'en suis rendue aujourd'hui.
Est-ce que des fois, tu penses à ce qui aurait pu t'arriver si cette opportunité-là, je vais appeler ça comme ça, n'avait pas été dans ta vie?
Absolument. Pour la Fondation, si je peux dire ça comme ça, depuis que j'ai 12 ans, ils ont un rôle crucial dans ma vie. À 12 ans, je pensais pas finir mon secondaire. La Fondation était là. Moi, je faisais des cours de gymnastique, puis c'est eux qui les payaient. Puis ces cours-là étaient... Pour moi, c'était un besoin à ce moment-là de ma vie. Gros TDAH, j'avais besoin de ça, un sentiment d'accomplissement. Puis je me souviens, quand je faisais pas de gymnastique, j'avais des périodes dépressives et vraiment, je me serais pas vue terminer mon secondaire. Là, je suis rendue à l'université. Et c'est vraiment parce que la Fondation a eu une place dans ma vie très jeune quand même.
Peut-être que Fabienne Audette, qui est présidente directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ, va peut-être pouvoir plus répondre à cette question-là, mais Ariella t'a mentionné, bon, c'est la famille d'accueil qui m'a mis dehors. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Parce que je me dis, si moi, je suis une famille d'accueil, j'imagine que j'ai valeur à bonne place. J'imagine que mon réflexe premier, c'est pas de mettre un enfant dehors parce qu'il atteint 18 ans. On dirait que j'ai de la misère à comprendre ce bout-là, là.
Ben, c'est certain, là, on a tous de la misère à comprendre ce bout-là. En même temps, il faut savoir que les familles d'accueil reçoivent un montant d'argent par année pour s'occuper des jeunes. Et ben, quand un jeune est dans une famille d'accueil, il occupe une place. Mais tu sais, on va se dire les vraies choses, là, il y a des familles d'accueil qui continuent de soutenir les jeunes après 18 ans et il y en a que non, qui vont prendre la place pour un autre jeune avec le montant d'argent. Puis je pense qu'il faut pas porter de jugement là-dessus parce que on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de familles d'accueil au Québec et on en manque présentement. Mais c'est aussi à l'État, hein, de regarder comment il peut mieux soutenir les jeunes et au-delà de 18 ans. Parce que la manière que c'est conçu présentement, et sachez qu'il y a beaucoup de gens qui se penchent actuellement au niveau du gouvernement sur comment on va améliorer la préparation des jeunes pour qu'ils quittent la DPJ mieux outillés et plus prêts et avec plus de compétences aussi développées puis un meilleur filet de sécurité. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait là. Alors, il existe notre fondation, il existe aussi plusieurs autres ressources dans la communauté qui viennent en aide à ces jeunes-là. D'ailleurs, là, on est à Québec. Aujourd'hui, dans la région de Québec, il y a une fondation de centre jeunesse qui aide également les jeunes qui sont suivis par la DPJ. Et nous, ben dans le fond, on offre une aide qui est assez importante, là, je vous dirais, pour les jeunes qui sont à Montréal.
Les actions concrètes là, de la Fondation auprès des jeunes, ça ressemble à quoi?
Oui, ben je vais juste faire ma phrase parce que c'est important. Là, on aide les jeunes qui sont à Montréal, puis on aide aussi complémentaires dans toutes les régions du Québec. Donc, complémentaires aux ressources qui existent déjà. Des exemples concrets. Alors, on leur paye des activités sportives, des camps de vacances, du tutorat. On va aménager des salles d'apaisement sensoriel dans les centres jeunesse. On paye de la thérapie. On les aide à s'installer en appartement. On les aide avec leurs études. On paye aussi des programmes d'insertion socio-professionnelle. En fait, notre aide, elle est complémentaire à celle de l'État. Et surtout, elle est très personnalisée aux besoins de chaque enfant et de chaque jeune. Et on aide les enfants de zéro, en effet, donc de leur naissance, jusqu'à 25 ans environ.
Quand vous parlez d'être complémentaire à l'aide de l'État, est-ce que dans un sens, vous travaillez aussi envers l'État en vous disant « il me semble que l'État devrait en donner un petit peu plus, que ce ne serait pas à une fondation d'arriver un peu en sauveur puis d'offrir certains de ces services-là? »
Ça, c'est une grande question, vous savez, hein, puis présentement, il y a quand même un désengagement de l'État dans tout ce qui est santé, services sociaux, éducation et j'en passe. On fait ce qu'on peut avec les fonds des contribuables. Bon, écoutez, c'est sûr qu'on a quand même évidemment des choses à dire là-dessus, mais nous, là, comme fondation, notre posture, c'est de dire, nous, on travaille en collaboration avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les municipalités, les gouvernements, les organismes communautaires, les familles d'accueil, bref, toutes les personnes et les organisations qui veulent aider les jeunes de la DPJ, on travaille avec eux. Puis, c'est certain que si éventuellement le gouvernement met davantage de fonds, par exemple, dans des ressources d'hébergement transitoires pour quand les jeunes arrivent à 18 ans, puis on va se le dire, là, en général, ils veulent quitter le centre jeunesse. Donc, ça prend une ressource qui est différente, qui apporte un accompagnement psychosocial, mais qui leur laisse aussi plus d'autonomie. Ben c'est sûr que nous, on va mettre nos investissements ailleurs. T'sais, on va s'ajuster, dans le fond, à ce que le gouvernement met en place. Puis c'est sûr que les fondations, on a, je pense, aussi un rôle d'influence auprès des différentes parties prenantes et notamment le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Madame Audette, quand quelqu'un fait un don à la Fondation, qu'est-ce que ça représente réellement pour un jeune? Puis là, ma question vise, par exemple, si on a la bouchée généreuse dans un tout autre corps, là, on a la bouchée généreuse, puis on sait que quand on donne des sous, bien, ça représente trois fois le montant en frais de nourriture. T'sais, on a comme une image concrète. Si moi, je fais un don ce matin pour la Fondation des jeunes de la DPJ, comment ça se traduit, comment ça se représente pour un jeune?
Ben alors, on a des exemples de ça hein, sur notre site web. Par exemple, là, on est en campagne de dons mensuels. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'aller attacher des donateurs qui vont s'engager à verser un montant à chaque mois, évidemment à la hauteur de leur capacité. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que tous ensemble, si on fait un don à la hauteur de nos capacités, imaginez l'impact qu'on a. Plus on a de dons qui rentrent, plus on est en mesure d'augmenter l'aide qu'on apporte aux jeunes de la DPJ. Donc, on est capable d'aider plus de jeunes en quantité parce qu'il faut se rappeler qu'ils sont très nombreux. OK? C'est assez alarmant la donnée au Québec, là. On parle de 42 000 jeunes au Québec dans toutes les régions qui sont pris en charge annuellement par la DPJ et de 2 000 jeunes comme Ariella qui arrivent à l'âge de 18 ans chaque année et qui doivent quitter le système et qui ne sont pas prêts et qui n'ont pas de filet de sécurité. Alors, ben écoutez, plus on a de dons qui rentrent, je le dirai jamais assez, là, plus nous, puis surtout les dons mensuels, ce que ça permet pour nous, c'est vraiment de planifier que, OK, cette année, on sait qu'on a tel montant qui vont rentrer en dons mensuels, donc on va pouvoir bonifier tel programme, par exemple notre programme Transition des jeunes vers la vie adulte, et donc on va pouvoir aider plus de jeunes dans plus de régions et leur apporter surtout une aide qui est, j'aime bien dire, transformationnel, parce que c'est important de donner des soutiens pour répondre aux besoins d'urgence. J'arrive pas, il me manque de nourriture pour la fin de mois, j'arrive pas à payer ma carte de transport en commun, etc. Ça, bien sûr, si on n'a pas la base, on peut pas se développer.
Mais c'est plus grave.
Mais en même temps, oui, mais nous, on veut apporter des soutiens comme des bourses d'études, de l'aide pour payer un appartement, vraiment un programme complet d'insertion socio-professionnelle pour que les jeunes, dans le fond, ils aient réellement un avenir plus rose, plus lumineux, et que ça vienne impacter profondément leur parcours.
Bien, justement, je veux qu'on revienne un peu à Ariella. Est-ce que ça te définit ton parcours? Est-ce que tu pensais avoir un bon futur quand tu étais placée? Tu sais, ça ressemble à... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu as un jeune qui est en centre?
Honnêtement, mon parcours, il ne me définit pas. Je vais juste commencer par ça. Je pensais pas avoir un bel avenir quand j'étais plus jeune. Par contre, il y a eu un déclic peut-être quand j'étais en secondaire 4, je dirais. J'ai eu beaucoup de soutien de la Fondation et de mon école, en fait. J'étais à l'école Dominique Savio. Ils m'ont montré l'école autrement. Moi, ça m'a permis de pouvoir rêver, de savoir que ce que j'aurais rêvé faire peut devenir une réalité. Aujourd'hui, je suis devenue intervenante psychosociale et je fais des études en enseignement, en adaptation scolaire. Donc, pour moi, c'est quand même une vision de la vie que j'avais, que je ne pensais pas pouvoir atteindre, que je vais pouvoir atteindre en partie parce que justement, j'ai reçu des dons, j'ai reçu du financement pour pouvoir payer mes études et voilà, ça m'a aidé beaucoup.
T'as parlé de ce que tu fais dans la vie. J'imagine que pour toi, ça doit être le fun de dire que t'es capable de redonner. T'as été aidé par des gens qui ont choisi dans leur profession d'aider des jeunes. Ben là, toi, tu peux te dire que tu fais un peu la même chose.
Exactement. Pour moi, mon but, c'est de toucher au moins un jeune. J'imagine que je vais en toucher plus qu'un. Mais s'il y a un jeune à qui je peux faire la différence, comme on a fait avec moi, pour moi, c'est parfait.
Ariella, tu es ambassadrice de la campagne. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent un peu de cette conversation-là, de la part d'une jeune, justement, qui a eu ce parcours-là?
J'aimerais qu'ils retiennent que c'est super important de donner, que ça change la vie des jeunes. Qu'on entend beaucoup de négatifs de la DPJ puis de ce qui se passe pas bien, mais je trouvais ça important aussi de montrer qu'on est des vraies personnes, qu'il y a du positif qui en ressort et que au final on fait partie de la même société que vous et on veut outiller tout le monde pour qu'il soit prêt à affronter la vie autant que n'importe qui d'autre.
On vous remercie d'avoir pris le temps ce matin, autant Ariella qui est ambassadrice de la campagne que Mme Fabienne Audette qui est présidente directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. C'est une cause à laquelle ça vaut vraiment la peine de donner, puis merci d'avoir pris le temps de nous le faire voir ce matin.
Merci.
Merci de votre intérêt. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bye bye.
Au revoir.
Audrey, merci beaucoup. On t'écoute dans le retour des 14h.
Yes, 14h avec Denis et Véro.
D'ici la fin du show, nous reste quand même du temps en masse. On va entre autres jaser avec Nathan Meilleur, que vous aimez bien, dans la chronique que j'aime appeler le meilleur moment. parce que je suis un gars très, très créatif.
C'est concept, c'est concept.
Voilà. Et aussi les nouvelles au retour. Puis il y a du stock, notamment du nouveau stock qui est sorti dans les dernières minutes. Puis on s'en était parlé un petit peu plus tôt, là, mais entre autres, le gouvernement du Québec qui se fait un peu ramasser par la vérificatrice générale par rapport à la filière batterie. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard, 11h19.
Le point de Max.
Avec plus de 4000 jeux disponibles.